chapitre 31.
Greetings from Maurice. 10h32.
Tout s'envolait. Christos se retrouve seul à garder les murs de l'ABTA de Saint-Gilles, comme un con, comme un chat en août lorsque les proprios sont partis en vacances. La grande maison et le jardin, rien que pour lui. Seul, pas tout à fait. Il reste Imelda. La Caffrine consulte dans son bureau l'intégrale du Zandarme La Réunion, le mensuel édité par le Comgende, quelques pages rédigées par des aspirantes inspirées à la gloire de la République, de la gendarmerie d'outre-mer et de ses gradés. Christos ne l'a presque jamais ouvert. Il y a tant de revues éditées sur l'île avec des filles topless en couverture qui pourraient avoir envie de lire un magazine jaune et vert qui fait au mieux l'éloge de la dernière jupette des gendarmettes. Christos a des idées cochonnes ce matin. La petite hôtesse de l'air l'a émoustillé. Il regarde le hamac et cherche à imaginer par quel miracle de la gravité il pourrait y faire grimper Imelda. Puis, double miracle, y grimper avec elle. Juste pour le fun. Il n'a pas insisté pour obtenir une place à côté d'Aja dans l'hélicoptère du fameux JP. C'était pourtant l'occasion de jouer les touristes. Le survol de l'île intense, du trou de fer, du belvédère du Maïdo, de Mafate et de Salazi. L'expérience unique de l'homme face à la nature sauvage. Gratos. Il fallait bien quelqu'un pour garder la maison. Surtout, Christos n'avait aucune envie d'assister en spectateur au ballet millimétré des tireurs d'élite de la Roche. 30 types équipés pour le safari, tombés du ciel comme des anges exterminateurs. Face à eux, un pauvre type et une fillette de 6 ans. Très peu pour lui. Christos va se servir une dodo dans le frigo, le vrai, le frais, celui de la kitchenette. Il retrouve Imelda dans le bureau qu'il partage avec Aja. La Caffrine a laissé le Zandarme La Réunion pour des bouquins de criminologie, subjugués.
« Je peux ?»«
Oh, te gêne pas. Aujourd'hui, c'est porte ouverte. Bibliothèque pour tous. »
Imelda ne se gêne pas. Christos s'ennuie un peu à côté. Il doit se rendre à l'évidence, la perspective de jouer au missionnaire dans le hamac devient hautement improbable. Il reste néanmoins quelques perspectives raisonnables. Des menottes dans le premier tiroir de droite, les barreaux de la cellule dans la première pièce à gauche en sortant, de quoi pimenter une levrette improvisée, celle qu'il a sautée ce matin.
Tu penses à quoi, Christos ?
À rien.
Imelda repose un livre corné, mémoire du raid, et désigne d'un regard gourmand les dossiers entassés sur le bureau d'Aja. Christos vide sa bière et répond d'un air las.
Vas-y, ouvre les chemises si tu veux, c'est open bar.
10h45.
Imelda s'est assise dans le fauteuil en cuir d'Aja. Devant elle, sur sa droite, deux gamines se marrent dans un cadre rectangle. Celle de la capitaine, sans aucun doute. Même bouille que les siennes. À une différence près, de taille, ces gamines-là possèdent un papa, entre les bras duquel elles se blottissent, hilar. Les pièces à conviction collectées par la BTA défilent sous ses yeux. Imelda détaille l'ensemble avec attention. Entretien des clients et du personnel de l'hôtel à la Manda, déposition de témoins ayant un rapport plus ou moins lointain avec Martial Bélion, analyse d'ADN... Photographie des scènes de crime supposées, chambre 38, case de Chantal Le Tellier, ou d'autres clichés fournis par des amateurs. Parking de l'hôtel à la Manda dans l'après-midi de la disparition de Liane Bélion, port de Saint-Gilles à l'heure supposée du meurtre de Rodin, jardin d'Éden, où Bélion et sa fille se sont sans doute réfugiés quelques heures. Imelda tente de tout mémoriser. Elle n'a jamais cru, contrairement à ce que pense Christos, disposer d'un quelconque esprit de déduction. Simplement, elle n'oublie rien. Elle compile, elle classe, elle range, et elle retrouve très vite en cas de besoin. Christos pique du nez à côté. La page centrale du « Zandarme La Réunion » oppose fièrement les rares femmes de la brigade d'intervention marine, lui tombe des mains. Il s'est fait une raison. Imelda est gourmande, coquine, sensuelle, mais classique. Hors de son lit, la baiser est mission impossible. Côté professionnel, le téléphone n'a pas sonné à la BTA depuis plus de 20 minutes. Tout le monde a fui. Tout le monde s'en fout. 10h51.
Il entre à ce moment-là.
Au premier coup d'œil, Christos ne l'a pas reconnu avec ses rébanes, son costume de lin blanc et les gouttes de sueur qui assaisonnent la touffe de poils poivre et sel sous son menton. « Je voudrais parler au capitaine à Japurvi. » Le sous-lieutenant identifie par contre immédiatement la voix. Armand Zutor, le directeur de l'Alamanda. « Ah, désolé, elle a dû s'absenter. » Christos exécute un mouvement de main que lui seul peut interpréter comme l'envol d'un hélicoptère. « Ah, merde !» lâche Zutor. « Qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu une nouvelle cliente ?» Le directeur éponge sa barbe avec sa paume. « Deux !» Christos se laisse tomber sur la chaise la plus proche. « Oh non de Dieu, manquez plus que ça. On les connaît ?»«
Un peu, Jacques et Margot Jourdain. »
Les mains du sous-lieutenant se crispent sur le papier glacé du gendarme La Réunion. Il jette un regard d'incompréhension vers Imelda, alors que Zutor ne semble même pas avoir repéré la présence de la Caffrine dans la pièce.
« Les Jourdains ont disparu ?»
répète stupidement Christos. Zutor n'a pas l'air paniqué. Il s'assoit, prend le temps de retirer ses rébanes, de sortir un mouchoir de soie beige et de se tamponner les tempes.
« Non, pas exactement, lieutenant. Pour être précis, ils ont simplement quitté l'hôtel à l'Alamanda. Ils m'ont fait part de leur décision de rejoindre l'île Maurice pour la fin de leurs vacances. »
Christos lève les yeux au ciel. Le gendarme La Réunion entre ses mains est aussi rigide qu'une matraque.
« Il faut les comprendre, » continue le directeur de l'hôtel, sur le même ton blasé. « Le plan Papang n'était pas vraiment programmé dans le guide des animations touristiques de l'île. »«
Les enculés !» lâche Christos.
Armand Zutor sourit pendant que le sous-lieutenant repense au passe-temps favori de Jacques Jourdain, collectionner des photos suggestives des filles qu'il croise, y compris celle de Liane Bellion. Il se lève d'un coup.
« Avocat ou pas, Jacques Jourdain et sa femme vont se les mettre où je pense leurs vacances à Maurice. Ils sont des témoins clés. Tant que Bellion est en cavale, ils ne bougeront pas de l'île. »
Le directeur de l'hôtel dode l'île de la tête, comme s'il balançait entre gêne et soulagement.
Tanguy Dijou, le jardinier, les a conduits à l'aéroport tôt ce matin.
Il marque une pause et regarde sa montre.
« Ils sont dans l'avion à l'heure qu'il est. Ils n'ont rien à se reprocher. »«
Petit enculé !»
coupe Christos. Le sourire satisfait d'Armand Zutor se fige. Telle une brusque averse dans les hauts des ravines, des gouttes de sueur perlent à nouveau sur chaque ride de son visage. Le sous-lieutenant insiste.
« Ils vous ont payé combien pour que vous ne lâchiez pas l'information avant que l'avion décolle ?»
Le fin mouchoir beige de Zutor n'est plus qu'une serviette épongeant ses tempes argentées, ses poils au menton. Le sous-lieutenant se penche vers le directeur de l'hôtel. Il le domine d'une tête.
Le client est roi, hein. J'ai pigé. Épargnez-moi le couplet sur la crise. Vous en faites pas, Zutor. On va les attendre sur le tarmac du Sir Saewoo machin truc.
Hein? Vous voulez dire le Sir Saewoo Sagur Rangoulam International Airport?
Ouais, c'est ça, si vous voulez. De toute façon, c'est le seul aéroport international de l'île Maurice. L'avocat et sa blonde ont intérêt à coopérer s'ils ne veulent pas avoir la version mauricienne du plan Papang aux fesses.
Zutor regarde encore sa montre.
« Il faudra vous dépêcher, lieutenant. Ils atterrissent dans 10 minutes. »
Le sous-lieutenant siffle entre ses dents et fait mine d'applaudir.
« Rien à dire, Zutor. Joli timing. L'île Maurice est une république indépendante plutôt protectrice vis-à-vis de ses clients étrangers fortunés. »
Christos lance tel un javelot dans la poubelle en inox, le gendarme La Réunion. Il se tourne à nouveau vers le directeur de l'Alamanda.
Sauf que, Maurice, ce n'est pas non plus les îles Caïmans. Nous avons dans toutes les mascareignes des accords de lutte contre l'immigration illégale, des juges et des flics qui coopèrent. Que vos amoureux ne se fassent aucune illusion, on aura toutes les autorisations pour aller leur porter le petit déjeuner dès demain matin. Vous savez où ils crèchent sur Maurice ?
Zutor grimace. Il tord ses rébanes entre ses doigts.
Hôtel Blue Bay ? C'est moi qui leur ai trouvé l'adresse.
Pourquoi celui-ci ?
Le Blue Bay, c'est 50 paillotes sur pilotis, les pieds dans le lagon. Mes clients n'ont pas hésité longtemps.
Un lundi de Pâques, il restait de la place.
Vous savez, entre gérants d'hôtel, on se dépanne.
Christos a une envie folle de laisser le directeur refroidir quelques heures au frigo et de le cuisiner ensuite à petit feu. Rien que pour le plaisir. Mais il y a urgence.
Ok. Filez-moi l'adresse et le téléphone du Blue Bay. Et cassez-vous.
Zutor se lève et chausse avec lenteur ses lunettes de soleil. Pour la première fois, il remarque la présence d'Imelda derrière le bureau. Le directeur fixe la Caffrine.
Et elle, c'est ?
L'expression ne plaît pas à Christos. Dans les hôtels au bord des lagons, les directeurs doivent davantage prêter attention aux cocotiers, aux transats et aux parasols qu'aux cafres, malgaches ou comoriens qui travaillent pour entretenir les palaces. Autant d'ombres invisibles. Il décide d'en rajouter.
Aspirante Imelda Kedji, ne vous fiez pas à son silence, c'est le cerveau de la brigade.
Zutor la regarde d'un air soupçonneux, puis il sort.
Hôtel Blue Bay? You speak French?
Le type à l'autre bout du téléphone prend un accent british d'étudiant Erasmus perdu dans le quartier latin.
Oui, juste un petit peu, monsieur. À votre service, que puis-je pour vous?
Me passer le directeur de l'hôtel.
La voix hésite, puis minaude.
Pourriez-vous me préciser le motif de...
Gendarmerie de Saint-Gilles à La Réunion. Question de vie ou de mort. On a un tueur en cavale ici. Déclenchement du plan Papang. Vous avez dû capter l'info jusque chez vous?
Le réceptionniste mauricien n'a pas l'air plus impressionné que cela.
Tout à fait, monsieur. Je vais m'enquérir si la directrice est disponible.
Son flegme agace Christos. Il entend dans l'écouteur le type de l'accueil s'adresser à un autre, visiblement pas plus nerveux.
Mike, is Miss Doreen the office?
Déclic. Christos hurle dans le combiné.
Graziella Doré? C'est elle, la directrice du Blue Bay?
Yes, Mr. Hobbit.
Bordel, passez-la-moi!
Cette fois, des bruits de pas affolés résonnent dans l'écouteur, des pas qui s'éloignent. Christos regarde par la fenêtre, plus aucune trace de cette fouine de Zutor. Il attend moins d'une minute. Des pas plus lents s'approchent, plus légers que les précédents. Christos identifie le son de talons hauts sur un carrelage, du marbre peut-être. Il s'arrête. Le silence dure une seconde, soudain cassé par une voix sèche.
Oui ?
Graziella Doré ?
Elle-même.
Sous-lieutenant Christos Konstantinov, je suis chargé de l'enquête sur votre ex-mari, Martial Bellion.
Un soupir agacé précède la réponse de Graziella Doré.
J'ai déjà tout dit hier au type du consulat qui m'a interrogé à l'hôtel. Il m'a certifié qu'il travaillait en collaboration avec le comgent de La Réunion.
Christos fait signe à Imelda de lui glisser le dossier Bellion. Il tourne les pages d'une main. Presque immédiatement, il repère trois feuilles agrafées. Déposition de Graziella Doré recueillie par l'agent Daniel Colançon le dimanche 31 mars à 21h17 à Blue Bay, île Maurice. Daniel Colançon, Christos le connaît vaguement, un ex-flic du commissariat central de Saint-Denis entré en dépression après les émeutes du Chaudron et qui a fini par se retrouver à la sécurité au consulat de l'île Maurice. Le texte est arrivé par fax ce matin, envoyé par le comgende, juste avant qu'il ne fonce chez Chantal Letellier. Pas lu, pas le temps. Juste glissé dans le dossier. Tout le monde s'en foutait. Bellion était coupable. Seule la traque comptait.
Vous êtes toujours là, lieutenant ?
Christos lève les yeux de la déposition. Toute cette paperasse l'emmerde. Il doit gagner du temps.
Qu'est-ce que les Jourdains viennent foutre chez vous ?
Nouveau soupir, de surprise cette fois.
Vous êtes direct dans la gendarmerie.
Pressé, plutôt.
Les Jourdains, ce sont l'avocat parisien et sa femme. Armand Zutor m'a appelé tout à l'heure. C'est un vieil ami, j'ai libéré une chambre pour lui, à charge de revanche. Je n'aurais pas dû ?
Si. C'est la coïncidence que je trouve étrange.
Il pense, dans le même temps, qu'Armand Zutor devait déjà diriger l'hôtel à la Manda, au moment où Graziella Doré tenait le bar-restaurant du Cap Champagne, à Boucancano. Même caste. Christos glisse son doigt sur la déposition posée sur le bureau. Les lignes dansent devant ses yeux.
Madame Doré, vous me faites un résumé de ce que vous avez raconté hier à l'agent Colançon ?
C'est rassurant, vous communiquez dans la police ?
Nous sommes un peu débordés depuis deux jours, désolé. C'est quoi, votre version ?
Pardon ?
Vous avez suivi à la télé la cavale de votre ex-mari, je suppose. On en est à trois cadavres pour l'instant.
Vous voulez mon avis, c'est cela ?
C'est cela.
Je l'ai dit au type du consulat hier. Vous vous trompez sur toute la ligne. Martial n'a rien à voir avec ses crimes. Il est incapable de faire du mal à une mouche.
Martial Bellion. Incapable de faire du mal à une mouche. Christos peste. Il aurait dû prendre le temps de lire la déposition de Graziella Doré. Ce Daniel Colançon est une sorte de légume qui se laisse pousser au soleil. Mais dans son souvenir, il était plutôt malin quand il interrogeait les témoins.
Votre ex-mari a été condamné pour homicide accidentel, celui de votre fils. »
Pour la première fois, la voix calme de Graziella Doré monte d'un ton aigu, comme un micro mal réglé qui frôle le Larsen.
« Vous avez lu quoi ? Le rapport du juge Martin Gaillard ? Les journaux de l'époque ? Que savez-vous de ce qui s'est passé cette nuit-là ? Vous vous appuyez sur quel témoignage ?»
Christos prend le temps de répondre. Il a l'impression étrange que toute l'enquête est en train de basculer. Il pèse ses mots.
« Martial Bellion n'est pas responsable de la mort de votre fils Alex. C'est ce que vous êtes en train de me dire. »
« Je l'ai déjà dit hier à votre collègue. Martial n'y est pour rien. Il a tout endossé. Il fallait bien un coupable. »
Christos essaye de réfléchir le plus vite possible. Et s'il raisonnait à l'envers depuis le début ? Et si Martial n'était pas responsable de la mort de son fils, mais cherchait au contraire à se venger, genre Monte Cristo ? Et s'il était revenu à la Réunion pour cela ? Christos aimerait avoir le temps de demander conseil à Imelda.
« Il y avait quelqu'un d'autre sur la plage de Boucancano ?»«
C'est une vieille histoire, lieutenant. Nous avons mis du temps à la cicatriser. »«
Il faut m'en dire plus, Madame Doré. »«
Et ça changerait quoi ? Ça change quoi, la vérité sur la mort d'Alex pour votre plan Papang ?»«
C'est à nous de faire les liens entre le passé et le présent, Madame Doré. Vous ne m'avez pas répondu. Il y avait quelqu'un d'autre sur la plage de Boucancano ?»
J'ai déjà tout dit au type du consulat hier. »
Christos referme le dossier Bellion. S'il y avait le moindre élément intéressant dans la déposition de Graziella Doré, le Comgende le leur aurait signalé.
« Vous ne lui avez rien dit du tout. Rien sur les employés du Cap Champagne. Rien sur les témoins potentiels de la mort d'Alex. Rien sur les raisons qui vous ont poussé à fermer l'établissement 2 mois après le drame, à quitter l'île quelques semaines plus tard. »
« Vous faites dans la psychologie ?»
Christos lâche un sourire complice à Imelda.
« J'essaie. Je prends des cours du soir. »
« C'est bien, lieutenant. Continuez. Tout ce que je peux vous dire pour la 3e fois, c'est que vous faites fausse route. Martial n'a tué personne. Il en serait incapable. »«
Madame Doré, il m'en faut plus pour innocenter votre ex-mari. En ce moment même, 11 hélicos et plus de 30 flics courent après lui. »«
Avec une épuisette ? Vos hommes cavalent après un type aussi dangereux qu'un papillon. »«
Avec des fusils, Madame Doré. » Ne prendront aucun risque, ils vont l'abattre. »
Pour la première fois, Graziella Doré semble hésiter. Christos comprend qu'il doit lui offrir une porte de sortie. Il se souvient de quelques hypothèses farfelues dont il a discuté avec Aja.
« Madame Doré, pouvez-vous simplement me fournir le nom de vos employés du Cap Champagne, ceux qui étaient présents au moment de la noyade d'Alex ?»«
C'est loin. Ils étaient nombreux. » »«
On retrouvera ces noms, Madame Doré, d'une façon ou d'une autre. »
Vous connectez vite, lieutenant, très vite.
À votre tour, alors. Le Comgende va épingler votre joli papillon dans les minutes qui viennent.
Je vais réfléchir. Laissez-moi vos coordonnées.
Ils étaient 7, Madame Doré. Je veux les 7 noms.
Exact, lieutenant. 7 créoles. Vous êtes mieux renseigné que le flic d'hier.
C'est notre job. On fouille, on creuse, on progresse. Autre chose. Avez-vous des nouvelles des Jourdain ?
Non, aucune pour l'instant. Deux verres de punch vanille et un bouquet d'anthurium les attendent sur la table de leur paillote.
Le paradis. Dès que les Jourdain poseront leurs valises chez vous, prévenez l'agent Colençon, le flic du consulat. Ou bien les toits de vos paillotes risquent fort d'être soufflés par les hélicoptères des grands méchants loups du Comgende.
La voix de Graziella Doré retrouve son timbre neutre et froid de directrice d'hôtel de luxe.
J'y penserai, lieutenant.
11h11.
« Alors, ma belle, tu en penses quoi ?»
Christos vient de raccrocher et attend avec impatience le diagnostic d'Imelda. La Caffrine a écouté toute la conversation sur le haut-parleur.
« Ça a l'air chouette. »
Le sous-lieutenant roule des yeux étonnés.
« Quoi ?»«
Le Blue Bay, les paillotes sur pilotis dans le lagon, le bouquet d'anthurium. Ça a l'air chouette. Tu pourrais m'emmener ?»«
À Maurice ?»
Christos pose ses fesses sur le bureau derrière lequel la Caffrine se tient.
C'est pas un truc pour un jeune couple amoureux ?
Imelda attrape une gomme sur le bureau et la lance vers Christos. Le sous-lieutenant esquive en riant.
Et sans marmaille !
Pendant qu'Imelda cherche un autre projectile, Christos baisse les yeux vers la Caffrine. Les courbes de sa peau d'ébène se perdent dans le décolleté de sa robe ouverte. Il connaît le moyen d'amadouer sa Miss Marple noire.
Et l'affaire Bellion, ma belle ? Tu as un bout de fil pour démêler ce putain de sac de nœuds ?
Imelda abandonne le combat et réfléchit à voix haute.
Je ne sais pas. Il faut que je trie. les Jourdain, Armand Zutor, les employés du Cap Champagne il y a 10 ans, ceux de la Lamanda aujourd'hui, la relation entre Martial Bellion et son ex-femme, avec sa nouvelle femme, avec Alex, Sofa.
Christos s'en profite pour avancer un bras. L'envie de faire sauter un bouton ou deux de la robe d'Imelda le taraude, juste pour le plaisir des yeux. La Catherine n'a rien vu venir, perdue dans ses hypothèses.
Il y a un lien entre tout ça. La violence ne naît pas par hasard. Il y a toujours un terrain pour la faire pousser.
Le sous-lieutenant se penche encore et souffle dans le cou de la Catherine.
Et ça ne manque pas d'engrais par ici. Le fric mal réparti, le chômage pour tous. Même le racisme, si on creuse bien.
Non, justement. C'est là que vous vous plantez. C'est pas ça le moteur de la violence sur l'île.
Christos répond mécaniquement, le nez presque collé entre les seins de sa maîtresse. Il a envie d'ajouter le sexe à la longue liste des motifs insulaires pour assassiner son prochain.
C'est quoi, alors, ma belle ?
Je ne sais pas. J'épluche chaque jour les faits divers du quotidien. Les crimes sont partout. Gosses abandonnés, femmes battues, voisins qui s'entretuent à coups de sabre. Mais leur origine est ailleurs, cachée. Imelda suit le fil de son raisonnement. Elle repense un instant aux pères successifs de ses enfants. La spirale habituelle, toujours la même. Inactivité, pauvreté, ébriété, méchanceté. Pendant que les femmes de l'île touchent et dépensent l'argent braguette, les pères et tipères, les beaux-pères, perdent petit à petit toute dignité. Elle murmure presque comme un secret. Caché en chaque homme.
Christos n'a pas entendu. Il lève l'autre main et se penche. Ses doigts visent le premier bouton du décolleté, mais ses fesses glissent sur le bureau. Il ne parvient à rétablir son équilibre que par une prise d'appui désespérée, main droite sur l'épaule d'Imelda, main gauche pleine poitrine. Imelda se recule.
« Bats les pattes, gros vicier. J'ai déjà trop traîné ici. La marmaille m'attend pour le carry. »
11h23.
Imelda a garé sa polo près du parking de la Poste, après le boulevard Roland-Garros, à 50 mètres de la gendarmerie. Elle avance tout en comptant la monnaie dans son sac. Presque chaque jour, un vieux créole de grand fond pose ici sa camionnette et vend des chouchous, une sorte de légumes également appelé christophine. Il les vend à des prix défiant toute concurrence. Les touristes ne se font avoir qu'une fois. Généralement, ils détestent les chouchous autant que les Réunionnais les adorent. Imelda traverse la rue. Trois voitures sont garées juste devant la Poste. La camionnette du fermier, une Picasso bleue, un 4x4. Chevrolet Captiva, noir. Imelda ne parvient pas à détacher son regard du véhicule tout-terrain, un genre de calibre pas si fréquent sur l'île. Encore plus rare avec son double pot d'échappement et son pare-buffle chromé muselant le pare-choc avant, les phares et le capot. Imelda referme son sac, la main tremblante. Aussi incroyable que ce soit, sa mémoire visuelle ne lui laisse aucun doute. Elle a déjà vu ce 4x4, il y a moins d'une heure, sur une photo, dans le dossier Bellion de la capitaine Purvis. Instinctivement, elle fait un pas de côté pour se dissimuler derrière le flamboyant qui recouvre de son ombre l'angle de la rue. Le vendeur de chouchous a figé son sourire édenté sous son chapeau et la regarde avec étonnement. La lecture addictive de romans policiers a appris à Imelda à ne jamais croire aux coïncidences. Mais elle doit pourtant se rendre à l'évidence. Le Chevrolet stationné devant elle, à quelques pas de la gendarmerie de Saint-Gilles, était garé sur le parking de l'hôtel à l'Amanda, il y a 3 jours, très exactement l'après-midi où le corps de Liane Bellion a disparu et où Rodin a été assassiné.